Voilà, ce dimanche, on sera le 26, donc il n'y a rien de spécial à part le culte à 11h, mais c'est déjà spécial en soi de d'adorer le Seigneur ensemble. Groupe de jeunes le premier dimanche aussi, 3 décembre, donc Néhémie 5 pour les jeunes adultes. Travailler aussi, donc ce sujet de l'éthique au travail. Réunion de prière les lundis, l'étude mercredi, on finira donc mercredi prochain, Apocalypse 22. Vendredi 10 à 12, l'évangélisation. Et chorale encore vendredi. Là, on va commencer maintenant Noël plus sérieusement. Et donc, il y a un petit groupe qui va se réunir avant, à 18h30, on avait dit. Donc, si vous voulez apprendre les chants de Noël pour chanter à la gare Montparnasse, on n'a pas encore la date, mais on va faire un petit chœur de Noël dans la gare, là où il y a le piano. Venez à 18h30 vendredi pour répéter avec nous. Et peut-être on fera des moments de répétition aussi en dehors pour ceux qui ne peuvent pas. J'avais donc prié pour Jean-Alain qui va aller à Somain donc ce week-end. Voilà, que le Seigneur bénisse, qu'il y ait des encouragements, des fruits. Et il me semble que j'avais un autre. D'autres... Oui, aujourd'hui j'ai visité le local place de l'Escadrille dans le 13e. Voilà, c'est près du métro Chevaleret ou François Mitterrand. Et donc c'est un local pour le poste missionnaire et c'est petit. C'est voilà, c'est des petits bouts de locaux répartis, un en bas, un en haut, un au milieu. C'est pas génial, il n'y a pas de chauffage, l'électricité n'est pas bonne. Donc je pense que ça va. Voilà. La place est super. Il y a une jolie place là, une école Montessori, un parc. C'est vraiment sympa. C'est village. Ça fait vraiment village ce coin-là. Il y a le métro pas trop loin, mais pour le reste, le prix est intéressant. C'est 1000 euros TTC. Enfin, intéressant. Pour la taille, c'est pas si bas que ça. Hein. Mais je pense pas que ça convienne. Donc voilà. J'ai un autre à visiter vendredi qui fait 40 mètres carrés, rue Bourgon. Vous connaissez? C'est près de l'avenue d'Italie, ça. C'est près de chez toi? Ah ben voilà, tu vois. Ce serait bien si c'était. Voilà, moi je connaissais pas du tout, donc ça c'est vendredi, cette visite est prévue. Je prends des photos chaque fois, si ça vous intéresse, vous pouvez me demander. Mais je pense qu'on est quasiment prêt pour le message sur Apocalypse 21. Et donc, bienvenue à tous, et nous nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre, et au chapitre 21, l'avant-dernier chapitre, et je vais lire dans la parole de Dieu. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint. Et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'orient, donc à l'est, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au sud, 3 portes. Et à l'ouest, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondations, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille, et la ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, il trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le deuxième de saphir, le troisième de chalcédoine, quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième de hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Voilà donc ce passage sur la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste, sur notre habitation future. Ici, nous avons l'appartement témoin que nous pouvons visiter dans la parole de Dieu. Où est-ce que je vais passer l'éternité? Je vais être dans la Jérusalem céleste. C'est ce qu'on appelle le ciel ou le paradis. En fait, le paradis, c'est plutôt ce qui est terrestre. Le paradis, c'est le jardin d'Éden, et il y aura un premier paradis lorsque Christ va régner sur la terre, pendant les 1000 ans dont on a parlé la semaine dernière, en Apocalypse 20. Mais là, c'est céleste. Vous voyez bien, c'est dans le ciel, et cela vient du ciel, mais ça descend sur la terre. Et ce sera notre habitation, nous serons citoyens du ciel, et c'est l'espérance du chrétien. C'est important de penser à notre espérance, parce qu'on va passer l'éternité là, on va passer toute notre vie après la mort. Voilà, notre vie sur terre est une vapeur qui passe, mais c'est après que ça commence, la vraie vie éternelle. Et donc, c'est bon de penser à ces choses, de dire voilà mon espérance. Alors, dans l'imaginaire des sceptiques, le ciel, c'est une sorte de lieu blanc et froid où on jouera de la harpe avec les anges et où on va s'ennuyer profondément. Certains écrivains ont même écrit là-dessus pour se moquer du paradis chrétien. Et quand on ne connaît pas Dieu et qu'on ne connaît pas la Bible, on ne peut que se moquer, on a forcément une idée fausse. Cette idée que le péché est beaucoup plus amusant que la perfection, par exemple, c'est une idée absolument folle. Le péché détruit, le péché amène la mort, la corruption, la saleté. Le péché ne peut jamais être aimable et ne peut jamais être désiré. Avoir un lieu sans péché, c'est ça que nous attendons. Un lieu de perfection. Et ce n'est pas un lieu d'ennui, pas du tout. Parce que justement, la perfection, c'est passionnant, c'est extraordinaire. On aura le souffle coupé en permanence devant la beauté. Ici, Jean essaie de décrire une vision avec les moyens du bord, mais c'est impossible à décrire avec des yeux humains. C'est une cité céleste. C'est dans une autre dimension, d'une certaine façon. On ne peut pas la comparer à ce qui est terrestre. Il donne des éléments avec les pierres précieuses, les perles, l'or. Mais même l'or, là, est tellement pur qu'il est transparent. Est-ce qu'il y a de l'or transparent sur Terre? Non, il n'y a pas d'or, parce que l'or transparent, ce serait de l'or pur à 100%. Ça n'existe pas. Il n'y a rien de pur à 100%. Et donc, là, il y aura cette pureté absolue. Alors d'abord, il commence avec les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et donc, après la première création que nous voyons en Genèse, il y a la dernière création en Apocalypse. Dieu refait sa création. Il redémarre, si on peut dire. Il repart à zéro. Ce qui est intéressant, c'est que la première création est décrite en un chapitre quasiment, Genèse chapitre 1, c'est très court. Nous, on aimerait savoir comment Dieu a fait les étoiles, comment Dieu a étendu les cieux, comment Dieu ne donne pas tous ces détails. Les astronomes découvrent un peu l'univers, et c'est fantastique, hein. Ces galaxies qui sont d'une beauté, à vous couper le souffle là aussi, cette étendue infinie quasiment. Mais la Bible ne donne qu'un chapitre. Et dans la deuxième création, c'est encore plus court, hein. Il y a juste un verset. Je vis une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Voilà, c'est tout. Dieu refait tout en un verset. Et parce que ce qui l'intéresse, c'est de nous décrire la ville où nous allons vivre. C'est pas, encore une fois, comment il crée ou ce qu'il y aura dans le reste de l'univers, mais c'est cette ville céleste. Pierre avait déjà parlé, néanmoins, dans son épître, de cette deuxième création. Si vous regardez 2 Pierre, chapitre 3, verset 10, où il parle du jour du Seigneur. Là, c'est le jour du jugement. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, c'est-à-dire personne ne s'y attendra. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. La terre sera consumée. Puisque tous les versets 13, pardon. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Voilà. N'en déplaise à la Watchtower, la tour de garde des témoins de Jéhovah, l'espérance chrétienne est céleste. Il y aura une nouvelle terre. On ne va pas régner sur la terre éternellement, comme il l'annonce, comme il l'explique. Il y a vraiment, il est dit, nous serons citoyens du ciel, nous aurons un corps céleste. Donc tout cela montre bien que notre espérance est céleste. Et le ciel, c'est vraiment une autre dimension, c'est il ne faut pas le comparer à la terre. Jésus a dit, par exemple, qu'il n'y aura pas de mari ni de femme au ciel. C'est-à-dire, il n'y aura pas de relation sexuelle, il n'y aura pas de relation de couple, et il n'y aura pas de famille au sens, aujourd'hui, on ne va pas habiter dans une maison, papa, maman et les enfants. Au ciel, on sera tous des individus rachetés qui aimeront le Seigneur et qui s'aimeront les uns les autres sans qu'il y ait cet aspect de reproduction ou sexuel. Et ce sera vraiment un totalement différent. Pourquoi Dieu va-t-il détruire notre présente création, d'après vous? Voilà, elle est profondément touchée par la rébellion des anges et des hommes. Et cela, cette rébellion a toucher toute la création, c'est Romains 8 qui le dit, hein, la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Il y a une malédiction sur tout l'univers quelque part, et il faudra que Dieu recommence tout pour qu'il n'y ait plus cette racine de rébellion et de péché, et que tout puisse redémarrer d'une façon parfaite. La description de Pierre est intéressante. Pierre était un pêcheur, un patron pêcheur, il connaissait rien à l'astronomie. Mais les astronomes peuvent dire aujourd'hui que si l'énergie qui tient les atomes et l'espace tel qu'il est, si l'énergie était retirée, l'univers imploserait comme une télévision. C'est-à-dire, c'est pas qu'il l'exploserait, il imploserait. Tout serait comme dans un trou, aspiré comme dans un trou noir et serait consumé. Et ce qu'il dit là, les éléments se dissoudront. C'est vraiment cette idée-là qui pourrait être confirmée par un astronome lorsque le soleil, par exemple, explosera, ou lorsque, si Dieu retirait sa puissance et son soutien de l'univers, l'univers va imploser, va se dissoudre sur lui-même et disparaître. Alors, ce qui est remarquable dans ce chapitre 21, c'est qu'il y aura des choses en moins. Qu'est-ce qu'il y a en moins? Qu'est-ce qui va disparaître? Vous pouvez m'en citer quelques-uns? La mer La souffrance, quelqu'un a dit? Voilà, les deuils, le cri. Les choses anciennes, alors pas toutes, mais un certain nombre, voilà, oui, le péché. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Il n'y a plus de mère, on l'a dit, oui. Verset 22, par exemple. Pas de temple. Verset 23, pas de soleil ni de lune. Donc le système solaire ne sera pas solaire. Verset 25. Pardon? Parce qu'il n'y aura pas de nuit. Il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura plus le cycle jour et nuit. Et puis, verset 27, il n'y aura plus rien de souillé. Donc toutes ces choses ne seront plus dans cette nouvelle dimension, dans l'éternité du ciel. Plus de mer. C'est étonnant. Et alors, moi le premier, hein, je me dis ça va me manquer parce que je viens du Nil. Qu'est-ce que j'aime avoir la mer, regarder la mer, être dans la mer, nager dans la mer, c'est tellement beau la mer. C'est quand même 70% de notre terre. Hein. Si on enlève la mer, il n'y a presque plus rien. Hein. Bon. Et la mer, c'est la vie aussi. C'est grâce à la mer qu'on enlève. Par exemple, c'est grâce aux océans qu'on a la moitié de notre oxygène sur Terre. Et elle absorbe tout le carbone que nous rejetons. Hein. Chaque fois qu'on respire, on rejette du carbone et ce carbone est... voilà. À quoi servent les océans aujourd'hui? Ils ont une particularité par rapport aux rivières, les océans. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont salés. Merci. Vous n'y avez pas pensé, mais c'est pourtant important. Et les océans sont salés parce qu'ils brassent des sels minéraux qui font que ça a une teneur en sel. Mais ce n'est pas un hasard si les océans sont salés. Le sel, d'abord il y a un effet avec la glace, mais c'est surtout un effet purificateur. L'eau salée purifie, nettoie. Elle nettoie la terre et elle nettoie les eaux. Les rivières sont charriées il vaut mieux même pas y penser, de débris, de choses sales. Hein. Et elles se jettent où les rivières? Dans les mers. Et c'est là qu'elles sont absorbées et que le sel purifie tout ça pour l'instant. Parce qu'on en met tellement qu'à un moment l'océan n'arrive plus à suivre. Hein. Mais il y a une telle profondeur, les abysses hein, font plus de 10 000 mètres de profondeur. Heureusement que Dieu avait prévu toute cette eau salée pour purifier notre terre. Et c'est merveilleux ce don de Dieu, hein, de l'océan, qui nous purifie. Et aussi, il y a l'évaporation, le fait que la mer s'évapore en eau, cette fois-ci non salée, et nous arrose. Pendant le phénomène d'évaporation, il y a un phénomène de purification, là encore. L'eau qui remonte et qui forme les nuages est très pure. Voilà. Alors que si la mer elle-même n'est pas très propre, le sel concentre le tout et l'eau qui s'évapore est pure. Donc Dieu a inventé ce cycle extraordinaire de l'évaporation et de la pluie et de l'océan. Mais sur la nouvelle terre, il n'y aura pas besoin de purification. Et donc il n'y aura pas besoin des mers. Et ça ne va pas nous manquer parce que nous serons différents. Voilà. Il y aura probablement de l'eau, je pense, hein, puisqu'il y a le fleuve d'eau vive, mais il n'y aura pas les mers salées telles que nous les connaissons. Vous n'êtes pas trop déçus, j'espère. Il n'y aura plus de mort, ni de larmes, ni de deuil. Qu'est-ce qui gâche notre vie, si ce n'est la mort, à tous? Qu'est-ce qui attriste le plus, si ce n'est le deuil, lorsque nous perdons quelqu'un de cher? C'est ce qui nous brise le cœur et tout ça sera disparu. La mort n'aura plus de place. Elle est définitivement vaincue, anéantie par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y aura plus de temple. Pourquoi il n'y aura plus de temple? Parce que nous serons dans la présence de Dieu. En Hébreux 9, 11, il y a un verset intéressant qui explique aussi pourquoi. Hébreux 9, verset 11. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le temple ou le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et c'est quoi ce temple qu'il a traversé? Il est entré pour nous dans le lieu très saint. C'est quoi ce temple au ciel? C'est la présence de Dieu. Le temple sur la terre avait le lieu très saint, qui était barré par un voile. Le lieu très saint, c'était là où se trouvait la présence de Dieu, qu'on appelle en hébreu la Shekinah, la gloire, hein, gardée par les anges, là, les chérubins protecteurs qui étaient taillés dans le bois. Hein. Et donc, ce lieu très saint symbolisait quelque chose qui existe dans la réalité, dans le ciel. Ça symbolisait la vraie présence de Dieu au ciel. Et donc Christ, une fois par an, au Yom Kippour, le souverain sacrificateur, rentrait dans ce lieu très saint. C'était le seul moment où il avait le droit de rentrer. Et là, il aspergeait de sang et c'était le pardon pour toute l'année. Mais Christ, lui, est rentré avec son sang, qu'il a versé, dans le ciel même. C'est ça que dit l'Épître aux Hébreux. Et en fait, il est dit dans l'Épître aux Hébreux ailleurs que le tabernacle de Moïse, c'est l'ombre des choses, mais la réalité est au ciel. L'ombre, hein, c'est juste l'image que donne l'objet avec la lumière. Mais l'ombre n'a pas de réalité. L'ombre, ça ne se touche pas, hein, ça ne fait rien. C'est juste l'absence de lumière. Mais la réalité est au ciel. Donc, la présence de Dieu, nous serons dans la présence de Dieu. C'est lui le temple, c'est lui la gloire, la Shekinah, elle sera là. Devant nous, on n'aura plus besoin d'aller dans un temple pour chercher Dieu. Il n'y aura plus de soleil, de lune, plus de nuit. C'est-à-dire, nous aurons une lumière permanente et cette lumière, ce sera Jésus-Christ. Il sera notre soleil. Il n'y aura plus de nuit, plus de ténèbres. Vous, rappelez-vous, dans Genèse 1, la première création, Dieu sépare la lumière des ténèbres. Déjà, les ténèbres commencent à jouer leur rôle maléfique, si on peut dire. Mais dans le ciel, l'éternité, il n'y aura plus ces ténèbres, plus de nuit, plus de crainte de la nuit, ceux qui ont peur la nuit. Il y aura la lumière permanente. On ne dormira pas, à mon avis, puisqu'on sera dans un corps différent. Il y aura pas, on va pas se dormir 8 heures, se coucher. Il y aura pas de lit, pas de matelas. Pas de sommier, pas d'oreiller, on sera toujours vivant, toujours éveillé pour louer le Seigneur. Mais aussi, le soleil et la lune sont ceux qui rythment le temps, hein, puisque nous basons nos jours, nos journées sur le soleil et sur la lune, et il n'y aura plus de temps. Nous serons dans l'éternité, c'est-à-dire il n'y aura plus d'heure. Ça, c'est dur à penser, ça. Il n'y aura pas d'heure, il n'y aura pas de temps. On ne va pas être là en disant « Oh là là, ça fait 500 000 ans que je suis ici ». Non, ça ne voudra rien dire. On sera là, comme Dieu est. Hein, Dieu, c'est celui qui est, et nous, on sera là. On sera avec lui, et il n'y aura pas de temps. Ce sera une autre dimension, je vous l'ai dit. Hein. Il n'y aura plus rien de souillé. Et verset 27, ça c'est très important, évidemment. Au ciel, il ne peut venir que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Il n'y aura pas de pécheur au ciel. Imaginez quelqu'un qui est sur la terre et qui dit, voilà, moi je pense avoir fait assez de bonnes œuvres pour mériter le ciel. Voilà, j'ai été missionnaire, tel pays, je me suis occupé des pauvres, des prostituées, des lépreux. J'ai donné ma vie, j'ai vraiment prié beaucoup, j'ai jeûné souvent. Je pense qu'avec tout ce que j'ai souffert, je mérite le ciel. Qu'est-ce qui va arriver à cette personne? Ben, elle ne va pas pouvoir entrer dans la Jérusalem céleste, parce qu'il n'y a pas d'orgueilleux au ciel. Hein. Personne ne va être au ciel en disant, alors toi, qu'est-ce que tu as fait pour venir ici? Ah ben moi, j'en ai fait. Hein. J'étais le fondateur hein, de c'est pas des restos du corps ou je ne... Non. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, c'est par pure grâce que je suis ici. C'est Christ un jour s'est révélé à moi, il m'a montré son amour et je l'ai accepté. Et il m'a inscrit dans son livre de vie. J'ai aimé l'agneau et il m'a sauvé. Il est mort pour moi. C'est ça qu'on dira au ciel. Mais il n'y aura pas de vantardise et de dire, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Il n'y aura rien de souillé, rien d'abominable. Il n'y aura pas d'idolâtrie, il n'y aura pas de gens qui vont se faufiler, hein? Non, il n'y aura que les justes qui sont justifiés par Christ. Et puis vient ensuite la description de la plus belle des villes, la Jérusalem céleste. Alors nous voyons verset 2, elle descend du ciel d'auprès de Dieu comme une épouse. Vous qui avez assisté à des mariages, Il y a le temps où dans l'église où on attend l'épouse. Alors tout le monde est là, on discute. Il y a le marié qui est devant, tout le monde regarde le marié. Il y a les parents qui s'approchent, les amis. Alors, ah, c'est qui ça? Oui, c'est le frère. C'est... Voilà. Et puis d'un seul coup, il y a la musique et la mariée entre. Et là, tous les yeux se tournent vers la mariée. On ne voit plus le reste. Hein. Dans sa belle robe, elle éblouit tout le monde. Et on est subjugué. Elle est forcément belle, parce que c'est la mariée. Et elle entre dans les noces. Hein. Donc là, les noces, on les avait vues, étaient au chapitre 20. Mais c'est un peu la même chose. La Nouvelle Jérusalem, c'est cette mariée, c'est le peuple de Dieu aussi, hein, dans la ville, qui arrive sur cette nouvelle terre. Et cette arrivée est glorieuse, parce que Dieu est un Dieu de gloire. Et donc nous allons être dans la Jérusalem céleste, dans un lieu céleste, mais nous allons descendre sur la terre. Et là, je ne peux pas vous expliquer comment ça va se passer et ce qui va se passer dans les détails. La Bible ne donne pas d'explication, mais nous allons nous rapprocher de cette nouvelle terre. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Donc la Jérusalem céleste, c'est là où Dieu habite, avec nous. C'est racheté. Nous habiterons ensemble dans la présence de Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Ce sera un lieu de consolation éternelle, un lieu merveilleux où on n'aura plus justement de tristesse, plus de dépression, plus de mauvaises nouvelles. Nous n'aurons que la joie de rencontrer Dieu face à face. Quel privilège! Dieu nous a promis un nouveau corps lorsque nous ressusciterons, un corps qui justement sera adapté au ciel. Christ a vécu sur la terre après sa résurrection quelques jours, hein. Il est resté quelques temps là. Il s'est montré aux disciples, il a même mangé une fois, ils l'ont touché, il a parlé avec eux, mais très rapidement, il est monté au ciel. Pourquoi? Parce qu'il avait ce corps céleste, glorieux, comme on l'appelle, ce corps de résurrection qui est fait pour le ciel. Et nous, un jour, nous recevrons ce corps à la résurrection. Voilà. Nous allons peut-être mourir sur la terre, notre âme va rejoindre Dieu et nous allons attendre la résurrection de notre corps. Et le jour de la résurrection, au son de la trompette, nous allons recevoir un corps céleste. C'est dans 1 Corinthiens 15 qu'il mentionne ça à plusieurs reprises, mais je vais juste vous lire le verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang, donc notre corps actuel, ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu, parce que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Donc notre corps actuel ne peut pas aller au ciel, ne peut pas surtout aller dans la présence de Dieu, parce qu'il est entaché de péché, de faiblesse, il n'est pas racheté encore. Notre âme est rachetée, mais pas notre corps. C'est pour ça que nous tombons malades, que nous sommes sujets aux maladies et à la mort physique. À la résurrection, nous aurons un corps immortel, un corps qui ne sera pas malade, un corps qui ne sera pas handicapé, un corps qui pourra même traverser la matière et voyager dans l'espace comme ça. Nous aurons un corps sans limite, le corps semblable à celui de Jésus-Christ. Et dans ce corps, nous habiterons la Jérusalem céleste. Verset 11, nous voyons là une beauté extraordinaire. Semblable à une pierre précieuse, très précieuse, comme du cristal. Il va y avoir une transparence. La Jérusalem céleste sera tellement pure qu'elle sera transparente. Ça symbolise vraiment la pureté, la perfection. Il n'y aura rien de caché, rien de sournois. Tout sera absolument pur. Ça me fait penser aussi, dans l'Apocalypse, à un moment, il voit le trône de Dieu et c'est comme une mer de cristal. C'est-à-dire transparent, là encore. Cette idée de transparence est souvent présente dans la vision de Dieu, dans Ézéchiel aussi. C'est que Dieu est lumière, il est transparent, il n'y a rien de caché en lui, aucune ténèbre. Et puis, verset 12, il y a 12 portes avec 12 anges et 12, avec les noms des 12 tribus d'Israël. Le chiffre 12, le nombre 12 revient très souvent dans ce chapitre. 12, dans la Bible, c'est le symbole du gouvernement parfait. Voilà. Les 12 tribus, c'est la plénitude du peuple de Dieu. Les 12 apôtres, c'est la plénitude de l'Église. Voilà. Le 12 a ce symbole de gouvernement humain parfait. Et donc, on retrouve les 12 tribus des fils d'Israël dans la Jérusalem céleste parce que Israël reste celui qui a amené le Messie, reste le peuple terrestre de Dieu, et nous aurons avec nous tous ces héros de la foi, tous ces croyants de l'Ancien Testament. Et puis, il y a les portes qui, elles, sont avec les noms des 12 apôtres. Donc, on a l'Ancien et le Nouveau Testament, là, réunis dans la Jérusalem céleste. L'Église, les 12 apôtres représentent l'Église, et nous serons, bien sûr, ce peuple de Dieu racheté avec lui dans la présence de Dieu. Mais nous devons reconnaître la racine hébraïque de notre foi. L'Ancien Testament est aussi inspiré que le Nouveau. Il fait partie de la parole de Dieu. Il ne faut pas le négliger en disant, bon, l'Ancien, oui, c'est un peu compliqué. Non, c'est peut-être un peu compliqué, un peu plus compliqué, moins clair, parce qu'il y a des éléments historiques qu'il faut connaître. Mais c'est la parole de Dieu. Il y a des choses précieuses dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, on pourrait trouver l'Évangile dans l'Ancien Testament. Hein. Pour un cours, j'avais fait cette recherche. Comment annoncer l'Évangile à un juif qui ne croit pas au Nouveau Testament? Eh bien, vous avez suffisamment de versets dans l'Ancien pour annoncer l'Évangile avec le péché, la séparation d'avec Dieu, la mort de Christ, du Messie, hein, et le salut par la foi. Tout ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et puis, verset 16, elle est en forme de carré, un carré de 12 000 stades, donc ça fait presque 2500 kilomètres. Une ville qui fait 2500 kilomètres de côté. Hein, Paris fait environ 4 kilomètres maximum. Hein. Donc Paris, c'est une sorte de rond, hein, un peu d'ovale, de 4 kilomètres. Imaginez une ville de 2500 kilomètres, voilà, carré. Et la hauteur est identique à la largeur et la longueur. Ce qui a fait dire à certains que c'était peut-être une pyramide. D'autres ont dit non, c'est un cube. Et nous ne savons pas, la Bible ne le dit pas, et ce n'est pas intéressant. Si c'est un cube ou une pyramide, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est d'être dedans. Et puis, il y aura, versets 18 à 20, toutes ces pierres précieuses qui sont citées. Hein. Voilà, sont les fondations de la muraille. La muraille aura des fondations qui seront comme des pierres précieuses. Savez-vous comment naissent les pierres précieuses? Pas du tout. C'est de la lave en fusion qui est comprimée à des températures et avec une pression phénoménale, et ça donne, sous la pression et la température, les pierres précieuses. Donc, selon la terre qui est en fusion. Et selon la température et la pression, vous avez des couleurs différentes, vous avez des pierres différentes, plus ou moins pures, plus ou moins rouges. Et là, ce qui est remarquable dans ces pierres, pour ceux qui connaissent les pierres, c'est qu'on a quasiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ou du spectre de la lumière. Vous avez des pierres vertes, des pierres bleues, des pierres rouges, des pierres oranges, des pierres transparentes. Et quelque part, c'est tout le spectre de la lumière est présent. La lumière est en Christ. Vous avez aussi l'image de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, ça symbolise quoi dans la Bible? L'alliance, et en particulier une alliance basée sur la... Voilà, donc c'est une... De ne pas détruire, c'est une... Non. Non. Ça commence par un G. Non, de ne pas détruire. Dieu dit, je ne vais pas vous détruire, je vous fais donc grâce. Donc, je fais des devinettes un peu difficiles ce soir. L'arc-en-ciel, c'est l'alliance de la grâce, c'est ce symbole que le déluge ne viendra plus sur la terre. Il y a ce pasteur qui a dit, il est temps de reprendre le symbole de l'arc-en-ciel pour nous. Parce que c'est devenu le symbole de l'homosexualité et nous voulons le garder biblique. C'est le symbole de la grâce de Dieu. Et donc, ce sera dans cette ville, ce spectre de lumière, ces pierres précieuses étincelantes. D'ailleurs, sur le pectoral du souverain sacrificateur, il y avait les 12 tribus symbolisées par 12 pierres précieuses. On en retrouve 6 ici, 7 pardon, comme par hasard, 7, hein, la perfection. Mais les pierres précieuses jouent un rôle important dans la Bible, mais je ne suis pas assez compétent pour en parler, mais il y en a qui les étudient et il y a des symboles très intéressants avec les pierres précieuses. Attention, par contre, au Nouvel Âge, qui voit dans les pierres des formes chamaniques de guérison. On retrouve beaucoup ça dans les articles New Age. Vous pouvez acheter une pierre précieuse qui va vous donner la consolation ou la guérison de ceci ou de cela. Ne tombons pas dans ce piège-là. Restons avec le Seigneur qui est notre médecin. Les portes sont des perles. Alors, elles sont grandes, j'imagine. Alors, comment peut-il y avoir des perles qui font plusieurs mètres de haut et de large? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une huître géante qui a fabriqué cette perle? Je ne pense pas. Je pense que c'est quelque chose que Dieu a fait lui-même. Mais la perle, c'est cette beauté pure, là aussi, de ce nacre qui reflète la lumière de façon mordorée un peu. Hein, le nacre réfléchit la lumière d'une façon très particulière. C'est ce qui donne la beauté aux perles. C'est leur réflexion de la lumière. Hein. C'est à la fois mat, mais en même temps brillant. Et c'est ce qui fait qu'une femme, vous lui mettez un collier de perles, elle est tout de suite attirée, et moi aussi, un homme aussi, parce qu'il y a une beauté extraordinaire dans la perle. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même comment est faite une perle. Elle provient de la souffrance d'une huître, hein, puisque c'est à base d'un grain de sable que l'huître fabrique ce nacre, merci, donc sécrète de la nacre pour se protéger de ce grain de sable qui l'irrite. Et Dieu a voulu, et c'est merveilleux encore le Seigneur, que cette perle puisse avoir une forme assez ronde et qu'elle puisse devenir une beauté, cachée hein, dans l'huître. Et peut-être que cette souffrance aussi symbolise un peu les souffrances de Christ pour nous, à la fois la réflexion de la lumière et à la fois la souffrance du Seigneur pour nos péchés. Et puis, il dit, la gloire de Dieu l'éclaire, verset 23. Donc il y a cette lumière et c'est ça qui va être frappant. Nous y apporterons la gloire et l'honneur des nations. Les hommes viendront là, les hommes de la terre qui vivront sur la terre, se rendront à la Jérusalem céleste pour y apporter aussi leur adoration, leur honneur. Et nous serons en présence de Dieu. La Bible ne dit pas ce que nous ferons. Mais il est probable que nous régnerons sur les hommes terrestres. Il y aura une population terrestre, puisqu'il y aura une nouvelle terre. Et nous, en tant qu'êtres humains célestes, nous aurons des gouvernements, nous aurons peut-être des villes à gérer, je ne sais pas, nous aurons des responsabilités avec le Seigneur. Mais ici, ce n'est pas dans ce passage qu'il en parle. Dans ce passage, il y a surtout cette découverte de la Jérusalem céleste, cette beauté. Ceux qui ont visité la Jérusalem terrestre déjà ont été touchés par sa beauté sur cette colline, ses murailles, elle a gardé tout son aspect antique, les vieux oliviers à côté, hein, le jardin des oliviers, mais la Jérusalem céleste sera extraordinaire, parfaite en beauté, et vivre là, ce sera extraordinaire. Ce qui nous intéressera, ce sera pas l'or transparent ou les rues pavées d'or, ou les pierres précieuses, ça ne nous intéressera pas du tout la valeur monétaire de ces choses. Ce qui nous fascinera, c'est la beauté, la perfection. Tout sera parfait et beau. Quand vous voyez quelque chose de parfait, c'est quand même, ça fait du plaisir au cerveau hein, et à l'âme. Mais là, ce sera partout. Il n'y aura plus de raté, plus de mal. Et nous contemplerons le Seigneur face à face. Et j'aimerais terminer avec ça. Nous avons chanté le cantique, hein, « Voir mon Sauveur face à face ». C'est notre attente, notre espérance. Pour l'instant, nous croyons en lui par la foi. Nous croyons sans le voir. Nous savons que le Seigneur est là. Nous savons que nous allons le rejoindre parce qu'il a promis dans sa parole, mais nous ne le voyons pas. Et nous vivons sur cette terre une vie parfois difficile avec des épreuves. Les chrétiens ne sont pas particulièrement admirés ou encouragés à Paris ou en France. Donc la vie chrétienne est une vie faite de combats. Parfois, les chrétiens sont même, dans certains pays, mis à l'écart de la société, sont persécutés, ils doivent se cacher. Mais dans la présence du Seigneur, toute cette souffrance disparaîtra, sera consolée. Quand il dit qu'il n'y aura plus de deuil ni de larmes, il pensait aussi aux chrétiens de la tribulation, hein, qui ont été torturés, décapités par l'Antichrist, et qui trouveront là la gloire de Dieu. Les stars rêvent de monter les marches de Cannes. Eh bien, les chrétiens rêvent de monter les marches de la Jérusalem céleste, d'être en présence de Christ. Il n'y a rien de plus beau, et ça doit nous encourager dans les moments d'épreuve, dans les moments d'affliction, lorsque notre corps faiblit, de dire « Seigneur, un jour j'aurai un nouveau corps, je te verrai face à face. Rien ne pourra nous séparer de toi, et je pourrai te connaître encore plus, encore mieux, découvrir ton amour. Tout l'amour, la bonté, la sainteté de Dieu, de Christ vont être là, à notre disposition. On sera comblés éternellement et en permanence. Et nous n'aurons plus d'attrait pour les choses de péché, nous n'aurons plus de convoitise, nous aurons plus, même la terre nous paraîtra bien pâle à côté, tellement le Seigneur va remplir notre vie.